Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, une émission consacrée aux initiatives émanant de citoyens, d'institutions, d'entreprises pour faire en sorte que cette vallée de la Drôme soit de plus en plus bio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Loïc Fraud, un jeune viticulteur qui va nous expliquer les raisons de sa reconversion en bio. Une reconversion assez rapide puisque Loïc Fraud va nous l'expliquer. A d'entrée de jeu voulu se reconvertir en bio sans passer par le traditionnel puisqu'il vient de commencer. Loïc Fraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai un peu présenté rapidement, mais peut-être que vous pourriez nous présenter un petit peu votre exploitation et depuis combien de temps vous êtes lancé dans la viticulture.
Donc déjà, ça fait 3 ans que je me suis installé. Je me suis installé le 1er janvier 2010. Avant mon installation, j'ai fait 6 mois d'aide familiale. Et là, avec mes parents, avec mon père notamment, comme il est exploitant agricole, on a discuté sur le passage en bio. Et puis moi, en tant que jeune agriculteur, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Donc on a converti la totalité de l'exploitation. Donc l'exploitation, aujourd'hui, elle fait 8 hectares de vignes. Après, j'ai 2 hectares de luzerne et 1 hectare 35 de lavarnin. Eux, ils ne sont pas en bio, par contre.
Et vous comptez un jour les faire passer en bio aussi, hein?
Non. D'accord. Non, déjà, parce qu'il n'y a pas de demande et le travail en bio est un peu plus pénible que sur les vignes.
Vous avez parlé d'aide familiale, qu'est-ce au juste?
Aide familiale, ben, on n'est pas rémunéré. Ben, grosso modo, on travaille sur l'exploitation des parents, quoi. Voilà, je travaille pendant 6 mois.
Dans la vigne, justement?
Dans la vigne, oui.
Parce que c'est une exploitation qui vient de votre père?
L'exploitation, elle vient de... C'est ma mère qui l'avait repris. Puis moi j'ai repris des terrains donc, qui appartenaient un peu à mon père. J'ai repris la totalité de ma mère, un peu à mon père, puis à d'autres viticulteurs qui étaient à la retraite.
Ça fait depuis 2010 que vous travaillez cette vigne, donc vous avez eu l'occasion de voir comment travailler en traditionnel quand même.
Oui, j'ai eu l'occasion, oui. Donc on voit que c'est pas pareil. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire dans cette démarche de reconversion?
Déjà c'est par rapport à sa santé. Déjà d'utiliser de moins de produits chimiques possibles. Parce que dans ma famille, il y a eu plusieurs personnes qui étaient malades à cause de ça.
Et c'est identifié à cause de ces produits?
Ouais, mais c'est en majeure partie à cause de ça, s'ils se protégeaient mal. Après, à force, on réfléchit, quoi. Voilà, puis après, d'autre part, après, il y a aussi pour respect par rapport à l'environnement. C'est quand même essentiel, les rivières, comme moi je suis pêcheur, donc je vois un peu dans les rivières, on voit un peu les résidus de pesticides, et on essaye de regarder un peu sous les pierres, enfin, voilà. Après il y a un peu la cave coopérative qui poussait un peu pour du bio, parce qu'ils en voulaient un peu, donc un peu le mélange de tout ça, ça nous a fait, je dis oui pour passer en bio, quoi.
Est-ce que vous avez une sensibilité donc écologique mais raisonnée, locale, quoi? C'est parce que vous voyez qu'il y a des pesticides dans l'eau et vis-à-vis des poissons que vous essayez de pêcher que vous êtes bio.
Voilà, ouais.
C'est pas pour des raisons militantes?
Non. Non, du tout, là.
Vous avez quel type de vigne, en fait, dans votre exploitation?
Alors, dans mon exploitation, j'ai de l'AOC Châtillon-Diois, donc des vins tranquilles, rosé et du blanc, voilà. Donc, il y a ligoté pour le blanc, puis le rouge, c'est des gamets. Et après, j'ai de l'AOC Clairette de Die pour faire la Clairette de Die tradition. C'est du muscat essentiellement, et un peu de clairette.
Et la reconversion concerne aussi le châtillonnais?
Oui.
Que vous livrez à la cave aussi?
Que je livre à la cave de Die Jaillance, oui.
Vous avez dit que vous avez été encouragé par la cave Jaillance pour vous inscrire dans la reconversion. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de cet encouragement?
Ils nous l'ont dit assez clairement qu'ils cherchaient du bio, quoi. S'ils avaient des marchés, puis ils ne pouvaient pas le fournir, quoi. Donc ils cherchaient des personnes pour passer en bio. Et après, à force d'en parler, ça nous a convaincus, quoi.
C'était dans quelle époque, ça?
Ça doit être avant, un peu avant que je m'installe. C'est dans ces eaux-là, j'ai cherché des... Mais oui, un peu avant que je m'installe. Ouais. Ou en cours d'année 2010.
Et alors concrètement, ça se manifestait comment leur... Parce que vous dites qu'ils cherchaient du bio, mais alors ça veut dire quoi, ils cherchaient du bio? Ils cherchaient du volume? Est-ce qu'il y avait une incitation concrète? Des aides ou...
Après, avec le conseil d'administration, ils ont voté. Ils ont décidé que dès la deuxième année de conversion, on touchait 10 centimes de plus par kilo de raisin.
Par rapport au raisin traditionnel?
Voilà. Bon, oui, pour inciter un peu plus les personnes à passer en bio.
Et là, vous avez commencé en 2010, donc 2011-2012. Vous êtes bientôt considéré comme exploitant bio, alors?
Oui.
Vous êtes toujours payé 10 centimes de plus au kilo?
Oui. Oui, les deux premières années de conversion. Hein. Puis après, la troisième année... Enfin, oui, deux premières années de conversion. Et après, l'année que je suis en bio, c'est un peu plus cher. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est... Ouais, c'est encore... C'est payé en bio, quoi.
C'est quand même mieux payé, je suppose, non?
Oui, oui, c'est un peu mieux payé, oui, oui.
Donc voilà, à part le fait que la cave cherchait du bio et le faisait savoir et payait 10 centimes d'euros de plus, il n'y avait pas de mesure d'aide pour les viticulteurs pour passer en bio?
Non, non, pour ma part, non, j'en ai pas eu. J'avais pas eu d'autres, non. Bon, après quand on passe par un organisme certificateur, après on a des aides à la certification sur facture acquittée. Bon, après, on peut avoir des subventions après pour acheter du matériel. Comme pour passer en bio, après il faut des appareils pour travailler le sol. Donc après on a des subventions pour acheter un matériel. Et voilà, que je sache.
D'accord.
C'est tout ce que je veux.
Et à part la cave et ces subventions dont vous venez de me parler, il n'y a pas d'autres aides pour les gens qui souhaitent se reconvertir? De la part, je ne sais pas, d'un organisme gouvernemental ou régional? Non, ça n'existe pas.
Non, bah, après ça peut exister, mais je... Non, non, moi je sais... Je suis pas au courant.
D'accord, vous êtes voilà. Parti comme ça.
Voilà.
Donc maintenant que ça fait 3 ans que vous êtes passé en bio, mais que vous avez eu quand même cette expérience, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des deux méthodes de bio, pas bio? Quelles sont les différences au niveau de la méthode de travail, au niveau des matériels, au niveau des résultats aussi? Alors peut-être on pourrait commencer par la méthode de travail. Quelles sont les différences?
Quelles sont les différences? Bon, après les différences qu'il y a entre les deux... Bon, après on va commencer dans l'ordre, dans la taille. Bon, la taille, ça fait, que ce soit en traditionnel ou en bio, la taille reste la même. Comme on travaille tout manuel, enfin, on travaille tout manuel. Après, on attache la baguette, donc c'est toujours pareil. Après, on arrive à l'épamprage. Donc, à l'épamprage en traditionnel, on faisait chimiquement, donc on désherbait chimiquement à la lance pour griller les pousses. Donc,
et c'était quoi comme produit?
Alors c'était soit on mettait du Reglone, soit après il y avait du Basta, Reglone, Basta, et il y en a un troisième, enfin que nous on a utilisé, et je ne me rappelle plus. Okay. Voilà, grosso modo, après il y avait, suivant les produits, il y avait une rémanence plus ou moins longue, donc une durée de, quand on l'utilisait, après 100 jours, enfin le Reglone, je crois que c'est 100 jours après, on n'avait pas le droit de récolter, enfin il faut l'atteindre 100 jours avant de récolter. Donc celui-là, il fallait l'utiliser vachement tôt. Par rapport aux autres produits, il devait y avoir 15 jours ou 3 semaines. Donc ça va s'aller. Voilà. Donc,
et maintenant, comment on fait alors si on n'a plus le droit à ces produits?
Ben maintenant, il faut le faire mécaniquement. Enfin, donc, nous, on a acheté une machine, une intercept, qui passe entre les cèpes de vigne et qui s'esquive à chaque cèpe. Donc nous, cette année, on a fait tout au versoir. Donc c'est versoir, c'est comme un corps de charrue, qui enlève la terre. Il y a soit ça, soit il y en a, ils ont des appareils avec des lames. Donc ça passe dans la terre, mais à 3-4 cm de profond. Et ça coupe tout ce que, bah, toute l'herbe qui pousse, ça la coupe, ça la sèche. Donc ça nettoie. Par contre, après, avec ça, on coupe pas les pampres, quoi. En traditionnel, quand on grillait les pampes, on pouvait griller un peu d'herbe aussi qui poussait un peu, donc ça tenait un peu propre la vigne. Voilà, donc déjà, ça, en traditionnel, on va assez vite, quoi, pour désherber, ça va relativement vite. Qu'en bio, on met... Moi, je dois mettre... Moi, je dois mettre presque 6 heures à l'hectare pour un passage. J'en fais au moins deux ou trois selon les années. Donc ça fait beaucoup plus de temps et plus de travail.
Et pour les pambrages en bio, comment vous faites? Puisque il n'y a pas la méthode à la main avec les pouces, non?
Si, on fait tout à la main.
Ah, voilà, c'est ça.
Ouais, on fait tout à la main, oui. Donc avant, on faisait que le haut des souches, comme on ne pouvait pas monter trop avec le produit. Puis maintenant, il faut faire toute la souche entière, donc on met deux fois plus de temps. Quoi.
Donc deux fois plus de manœuvre.
Et deux fois plus de manœuvre, ouais. Voilà.
Donc vous embauchez plus, en fait.
Voilà. Donc après, une fois qu'on a fini tout ce qui est pamprage, après, il y a les feuillages. Donc les feuillages, ça ne change pas. Soit l'un ou l'autre, on peut le faire soit à la main, soit mécaniquement. Enfin, ouais, mécaniquement. Soit thermique, soit... Donc thermique, on boule les feuilles avec du gaz. Après, c'est une machine qui aspire les feuilles, voilà. Voilà, donc là, il n'y a pas de changement. Puis après, on passe à la récolte. La récolte, c'est pareil, c'est les mêmes méthodes. Sauf après, il y aura des exploitations que, comme ils ont passé qu'une partie de leur exploitation, après il faudra qu'ils séparent les raisins. Juste qu'il faut faire attention, sinon il n'y a pas grand-chose. C'est pareil.
Donc si vous deviez résumer, en matière de charge de travail, vous estimeriez à combien de charges de travail en plus le fait de passer en bio?
Après c'est selon les périodes. Ouais. Donc après la charge de travail est peut-être multiplié par deux, mais juste sur la période du printemps, quoi, de fin mars à fin juin, sur cette période elle est multipliée par deux, quoi. Donc il faut on fait des journées, bon, des fois on fait des journées plus longues, comme ça bon, on arrive à peu près à être à jour dans nos parcelles et puis à pas trop tabasser comme des fous, voilà. Sinon après quand on voit que ça coince un peu, après on embauche un salarié de plus et on embauche un ouvrier de plus et après on arrive à cadrer à peu près.
Alors il y a des adversaires du bio qui disent que le fait de faire plus de passages pour nettoyer les parcelles, hein, pour le nettoyement des parcelles, puisqu'il n'y a plus d'herbicides et de pesticides, ouais, ça fait plus de tracteurs, donc plus de CO2 et plus de gazole consommé. Qu'est-ce que vous leur répondriez?
Oui, ils n'ont pas tort, oui, ça fait plus de gazole, oui. Bon, après, nous on n'y regarde pas trop, quoi. Ça, on n'y regarde pas trop, mais bon... quelque part, on fait peut-être plus de. On passe peut-être plus, mais comme on utilise moins de produits, c'est un peu kiff-kiff bourricot, quoi, je dirais. Mais bon. Enfin, nous, on laisse peut-être un peu de CO2, mais après, comme eux, ils laissent du désherbant, mais le désherbant, on le retrouve après, au bout de quelques années, on le retrouve encore dans le sol. Comme notamment le glyphosate, c'est le Roundup. Encore 20 ans après, on le retrouve encore dans les sols. Sous une fine dose, mais il y a encore un peu des traces.
Et y a-t-il des produits qu'on met sur les vignes qui sont quand même tolérés par la méthode bio?
Mais en bio, grosso modo, sur les vignes, on a le droit à deux produits qu'on va pour traiter. On a le droit au soufre et au cuivre. Le cuivre sur des doses raisonnées. On met... Non, putain. Bon, on a une dose avec... Et sur, on n'a pas le droit de, enfin, il y a des doses qu'on n'a pas le droit de dépasser.
Ils sont moindres qu'en méthode traditionnelle.
Non, ça doit être à quelque chose près, ça doit être les mêmes. Mais comme nous, on a le droit qu'au cuivre, on n'est pas restreint, mais on a des doses à suivre qu'il faut pas. Après, c'est sur 5 ans, faut pas dépasser 35 kg hectare, un truc comme ça là, de cuivre métal. Donc il faut, bon, normalement on s'en sort, puis on en met toujours moins, mais bon, faut faire attention, quoi.
Autrement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement à quoi ça sert le soufre et les sulfates de cuivre?
Bah, le soufre, tout simplement, c'est fait pour l'oïdium. Et le cuivre, c'est fait pour le mildiou.
Donc si on devait résumer, moins de produits chimiques, mais plus de travail.
Oui, tout à fait, oui. Ouais, ça fait plus de travail, puis ça fait... Bon, les sols, après, comme on y passe plus souvent, il y a plus de tassement de terrain. Ouais. Le terrain se tasse plus, quoi. Donc après, il faut passer des appareils pour le décompacter, le sol.
Le fait d'être en bio.
Ouais, le fait d'être en bio, c'est bien de passer un appareil pour décompacter un peu le sol. Enfin, les parcelles où on peut passer, quoi. Après, les parcelles qui sont tout enherbées, on peut pas détruire l'enherbement pour... Il y a des personnes qui binent leur vigne en totalité. Donc là, on peut... Après la récolte, on peut passer, quand c'est bien sec, on passe un coup de décompacteur. Ça permet d'aérer le sol et de refaire vivre un peu la vie du sol, quoi.
Et est-ce que vous avez, vous, en 3 ans d'expérience, au passage en bio, constaté quelque chose sur la qualité de votre raisin ou de votre sol?
Ouais, déjà du sol, moi j'ai pas constaté de changement, parce que je pense que c'est un peu tôt, il faudrait attendre encore, encore moins 3 ou 4 ans pour voir un peu la différence. Mais déjà, à force d'y passer, on voit déjà que ça se tasse un peu déjà. On voit que le tassement est déjà bien, donc la première année quand je me suis installé, j'ai tout décompacté, comme ça au moins c'était fait. Mais là, je vais le refaire cette année. Après, sur la qualité du raisin, bon, il y a un peu plus peut-être de maladies. Ou sinon, la qualité reste à peu près la même. Ouais, il y a un peu plus de maladies, parce qu'on est un peu plus... qu'on utilise des produits de contact, nous. Donc c'est des produits qui se mettent juste sur la feuille, qui ne rentrent pas dedans.
Par exemple?
Par exemple, on va traiter, ça se met juste sur la feuille. Et après, par contre, ils ont des rémanences. Tous les 10 jours, il faut aller les refaire, quoi. Grand maximum, tous les 10 jours. Parce que quand la végétation pousse, et ben la pousse de la vigne qui s'est formée, ben elle est pas protégée, quoi. Et elle risque les maladies, quoi. S'ils viennent plus, elle risque d'être atteinte par les maladies.
Vous parlez de quelle maladie et de quel produit en fait?
Ben, que ce soit le cuivre ou le soufre, c'est des produits de contact, donc ils ont une rémanence de 8-10 jours. Et au bout de 8-10 jours, on est vite obligé d'y repasser.
Donc plus en bio qu'en traditionnel?
Voilà, ouais. Ouais, puis après, en traditionnel, il y en a qui prennent qu'ils appellent des produits systémiques. Donc, quand on le pulvérise, ils rentrent dans la plante. Donc, ils circulent avec la sève de la plante. Donc, comme ils circulent avec la sève de la plante, on arrive à avoir des rémanences de 12, peut-être 14 jours. Donc, ça fait, après, on peut tirer un peu entre chaque traitement. Et on gagne à fort. Et après, sur toute la saison, on peut gagner un, deux traitements par an, quoi.
Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre choix d'être passé en bio?
Oui, je suis toujours satisfait, oui. Mais quand j'ai commencé à être en bio, j'étais un peu sceptique sur le bio. J'ai dit, c'est les débuts, on verra bien comment ça va réagir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Puis finalement, la première année, bon, elle était assez clémente parce que la météo était pas, il a pas bien plu, c'était assez sec. Donc les raisins étaient assez secs. Donc la première année, bon. On a été ok, la deuxième année ça a été. Bon, cette année il va pleuvoir, on va voir comment on va s'en sortir. Bon, normalement, il devrait y avoir. Enfin, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de maladies. Bon, non, mais on est assez optimiste pour la suite. Puis pour l'instant, bon, on est parti dans le bio. Puis je pense pas que dans l'avenir je changerai. Enfin, dans l'immédiat, je changerai pas de point de vue, quoi. Je resterai là-dedans.
Il pourrait se passer le fait que la vigne bio, étant moins protégée, soit plus fragile et vous ayez des surprises.
Oui, parce que si jamais, bon là, jusqu'à maintenant, on a vu la météo, il faisait que de pleuvoir, et s'il arrive ce temps-là pendant où c'est le moment de traiter, que s'il ne s'arrête pas de pleuvoir, on ne peut pas aller traiter, protéger la vigne, et là, ça risque de poser des graves problèmes sur la récolte. Ouais. Enfin, ça risque de, oui, on risque après d'avoir une récolte petite ou néant, enfin, ou pas en avoir. Quoi.
Sans regret, vous tournez vers le bio et vous allez y rester. Sauf si, d'aventure, les récoltes s'annonçaient catastrophiques en bio, mais il n'y a pas de raison.
Non, il n'y a pas de raison, normalement. Même si on passe une année, disons, sans récolte ou sans vraiment une grosse récolte, même ça, je pense, une année, ça peut passer. Ça va. S'il n'y en a pas deux ou trois d'affilée, je pense qu'on pourra toujours rester dans... Je resterai toujours en bio, quoi. Dans cette façon de travailler, dans cette façon de raisonner la culture, enfin...
Vous avez aussi la satisfaction de ne plus polluer les nappes phréatiques.
Voilà, aussi ça c'est essentiel pour...
Alors vous n'êtes pas sans ignorer que lors de la dernière AG de Jayance, un certain nombre de membres du conseil d'administration qui étaient porteurs d'un dynamisme vers le bio ont été évincés. Ne craignez-vous pas que cette volonté de Jayance d'atteindre 50% de la production bio à l'horizon 2020 ne soit plus d'actualité et que Jayance arrête de soutenir les viticulteurs comme vous qui peuvent se tourner vers le bio?
Ah, bonne question. Disons, ouais, bon, on a vu ce qui s'est passé, bon, à l'Assemblée Générale. Enfin, moi, ça me fait pas peur pour la suite, mais c'est sûr, ceux qui voulaient passer en bio, qui étaient un peu sur le fil, un peu, ils savaient pas trop... Après, on peut se dire, ça peut les décourager. Et autant, ils vont rester en traditionnel, alors qu'ils auraient pu passer en bio. Et d'un autre côté, bon, ceux qui étaient... Enfin, il y a ceux qui sont sur le fil du rasoir, puis il y en a qui savaient qu'ils allaient passer en bio. Je pense pas que ça les arrêtera, quoi. Donc, quelque part, je pense que il va toujours... dans l'avenir, il va toujours en avoir qui vont passer encore en bio pour, parce qu'ils vont avoir cette, un peu cette sensibilité pour l'environnement, pour leur santé, pour tout ça. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont, je pense, qui passeront pas en bio. Ouais.
Eh bien, Loïc Fro, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Ouais, de rien, merci à vous et bonne chance pour la suite.
Voilà, merci, au revoir.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Voilà, pour complémenter ce sujet, mettant en valeur les efforts d'un jeune viticulteur en reconversion bio, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Erdiwa Marianne Camus, déléguée générale d'AgriBiodrome, une association de producteurs bio dans la Drôme qui a pour but de développer une agriculture bio et solidaire dans notre département. Marianne Camus, bonjour.
Bonjour.
Votre association propose des outils pour aider les agriculteurs à passer en bio. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Effectivement, AgriBiodrome, c'est l'association des producteurs bio de la Drôme. Donc, on a pour but de développer l'agriculture bio. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On fait en sorte de maintenir les agriculteurs existants, donc de montrer que ça fonctionne et que ça marche depuis plus de 30 ans. Et puis, bah, d'accompagner concrètement chaque agriculteur qui a envie de passer le pas. Pour différentes raisons, parce que son voisin l'a fait. Sur notre département, on est plutôt bon, avec, on va passer le 1000e producteur bio très prochainement. Mais vous allez me dire, il en reste encore presque 4500 à convertir, en tout cas pas à convertir, mais à faire convertir leurs élevages ou leurs terres. Alors qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On les forme. Donc on organise des formations avec la Chambre d'agriculture de la Drôme, une formation qui s'appelle « Convertir mon exploitation, pourquoi pas moi ?» et on en organise très régulièrement, donc tous les producteurs qui souhaitent participer à cette formation peuvent le faire gratuitement. Qu'est-ce que l'on fait aussi ? Quand on a envie de passer le pas de la bio, on aime bien qu'il y ait des spécialistes, ou en tout cas des gens qui ont conduit d'autres exploitations à passer le pas, à venir sur mon exploitation. Donc on propose une visite sur l'exploitation de l'agriculteur avec deux conseillers spécialisés d'AgriBiodrome et de la Chambre d'agriculture. Donc ils viennent valider avec vous vos connaissances réglementaires, vos pratiques techniques et puis les débouchés. Donc là, ils vont mettre en exergue les points de vigilance, les apports d'informations complémentaires. Donc deux conseillers qui viennent sur l'exploitation et puis qui vous font un petit rendu. Combien ça coûte ça ? Ça coûte seulement 45 euros pour l'agriculteur parce que c'est pris en charge principalement par le Conseil général de la Drôme. Et puis le dernier outil, c'est le diagnostic de conversion. Donc là, c'est 3 visites sur mon exploitation. C'est vraiment un échange très approfondi, une réflexion sur la conduite de mon exploitation, ce qu'il va falloir changer techniquement, quels sont les débouchés. Et là, on vous fait une étude personnalisée sur la faisabilité de votre projet avec une analyse réglementaire et économique, les investissements à prévoir, les débouchés possibles, les aides et toutes les démarches administratives. Et puis, vous avez un suivi personnalisé par la suite. Donc ça, c'est vraiment une étude très, très complète pour l'agriculteur. Combien ça coûte ? Donc c'est 150 euros, le diagnostic et le suivi, parce que ça prend en charge uniquement 10%. L'agriculteur prend 10% de ce que ça coûte réellement, puisque c'est pris en charge par le Conseil général de la Drôme et la région Rhône-Alpes.
Loïc Fro, que j'ai interviewé précédemment, ne savait pas très bien quelles étaient les aides qui étaient ouvertes aux agriculteurs. Est-ce qu'il y a des aides qui seraient méconnues ou que vous pourriez connaître et que vous pourriez leur conseiller ?
Alors normalement, les aides ne doivent pas être méconnues par les agriculteurs, hein, puisqu'on a organisé il n'y a pas très longtemps toute une tournée en Drôme sur les aides spécifiques à la bio. Donc il y a différentes aides effectivement hein, pour ceux qui passent le pas de la conversion. Il y a aussi des aides à la certification hein, puisque l'aide à la certification peut être prise en charge pratiquement en totalité. Sur les aides, ça va dépendre de l'exploitation, ça va dépendre de la filière sur laquelle l'agriculteur s'engage. Donc ça va être peut-être pas très pertinent si je vous détaille l'ensemble des aides à la bio.
Alors est-ce qu'il y a des freins à la reconversion ?
Alors les freins que nous, on a pu identifier, c'est surtout beaucoup de préjugés. Donc après, il peut y avoir de réels freins techniques, mais qui vont être levés aussi prochainement. Je pense à la pêche, par exemple, où on dit qu'il y a beaucoup de freins techniques, mais il y a quand même des gens qui passent le cap, donc c'est possible. Après, c'est pas possible à n'importe quelle condition. Et puis les freins que nous, on a pu voir, c'est surtout des freins sur les préjugés. La bio, ça peut pas nourrir le monde, c'est pas pour moi.
C'est trop de travail.
C'est trop de travail ou alors c'est trop d'investissement. Je dirais, il y a aussi beaucoup de préjugés sur le cap à passer pour la conversion. C'est pour ça que d'avoir vraiment des gens qui viennent sur votre exploitation pour vous faire un état des lieux spécifique sur les investissements, la technique, le temps de travail, bah, ça permet d'avoir une idée concrète de ce que je dois faire pour passer en bio.
Est-ce que vous avez déjà constaté des agriculteurs en reconversion qui rebroussaient chemin pour l'agriculteur traditionnel ?
On n'a jamais vu ça.
Est-ce que d'aventure, vous pourriez donner vos coordonnées si d'aventure des viticulteurs ou des agriculteurs souhaitaient se faire conseiller par vos soins ?
Oui, alors ils peuvent appeler Agribiodrome, donc au 04 75 25 99 75. Et en fonction de la filière, ils seront redirigés vers un chargé de mission en fonction de cette filière, puisque Agribiodrome, on a 3 chargés de mission qui ont chacun en charge différentes filières. Donc l'élevage, c'est Nicolas. Les grandes cultures, c'est aussi Nicolas. Samuel s'occupe du maraîchage, de la viticulture et des plantes aromatiques, et Fleur de l'arboriculture.
Et vous êtes basé à Cré, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Marianne Camus, pendant que je vous tiens, est-ce que vous pourriez nous faire justement un petit état des lieux de la viticulture bio dans la vallée de la Drôme ?
Alors oui, donc la viticulture, c'est 16% des vignes en Rhône-Alpes qui sont en bio, soit approximativement 236 exploitations, donc ça n'est pas rien, 22% en cave particulière et 78% en cave coopérative, et sur ces caves, donc 11 sont certifiées en bio. Alors on a eu une vague de conversion relativement importante ces dernières années, notamment portée par les caves coopératives qui vont voir leur volume de vin bio augmenter sérieusement. Et en même temps, pour nous, Agribiodrome, c'est pas un problème, cette augmentation des volumes, dans la mesure où si les caves font l'effort d'une communication et d'une commercialisation active et puis aussi d'une sensibilisation des consommateurs et des convives sur l'intérêt du vin bio, le marché est extrêmement important en termes de développement. Aujourd'hui, finalement, le marché du vin bio touche assez peu les consommateurs et il faut absolument développer, informer et conseiller les consommateurs sur les vins bio.
Est-ce que, à votre avis, c'est fait de façon appuyée ou est-ce qu'il y a une espèce de réticence à promouvoir ces vins bio ?
Mon impression, c'est qu'il y a encore une réticence à promouvoir les vins bio parce que aussi on a encore mal conseillé les consommateurs dans la mesure où vin bio ne veut pas dire signe de qualité, mais veut dire diminution des doses de soufre, veut dire préservation de la qualité des sols de nos territoires, etc., etc. Et par contre, on peut faire des vins bio d'une excellente qualité, là tout dépend du cru.
Donc on peut faire une mauvaise piquette bio.
Complètement. Mais en même temps, cette mauvaise piquette bio, elle aura quand même eu l'intérêt de préserver la qualité de nos sols et notre eau. Mais après, on peut aussi faire du très bon vin bio.
Oui, parce que non seulement on a l'impression que la communication pour promouvoir les vins bio ne sont pas à la hauteur de ce marché nouveau, mais en plus, apparemment, les caves feraient plus de marge sur les vins bio que sur les vins traditionnels, en fait.
Alors effectivement, il y a une étude qui a été réalisée par l'ISARA qui a montré que, de manière générale, on margeait plus sur les produits bio parce que, notamment, je pense en GMS, on part du principe que ce sont des produits de luxe et donc on marche davantage. Donc effectivement, la question du prix de la bio, elle est aussi liée aux marges des intermédiaires. Alors, respectons le travail des intermédiaires. Je ne dis pas que les agriculteurs n'en ont pas besoin, mais effectivement, il y a une étude qui a montré que les marges étaient plus importantes sur les produits bio.
Donc ça pourrait être un frein aux ventes en volume en fait. Et à la propagation du bio un peu partout dans les familles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le bio c'est cher. Et s'il y a plus de marge, c'est normal que ça soit plus cher.
Bah, d'où l'importance de pouvoir aussi consommer sur des circuits. On a quand même des vignerons qui font du travail très positif en bio. D'où l'importance aussi de sensibiliser les familles à aller directement chez les producteurs pour consommer leurs produits.
Eh bien, Marianne Camus, je vous remercie d'être passée à la radio et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.